me kes pastil.
Me kes pastil.
Oh, me kes kes pas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 25 février. Pas mal de pain sur la planche aujourd'hui, on va commencer notre petit tour du monde avec un mouvement populaire inédit qui secoue tous les Balkans, avec les étudiants notamment en pointe de ce mouvement de protestation. On va voir aussi sur la manière dont l'administration américaine et certains de ses agents essayent de résister aux purges et aux censures imposées par l'administration Trump. On va parler d'un procès justement qui menace très fortement l'ONG Greenpeace aux États-Unis, à tel point qu'elle pourrait presque voir la faillite d'ailleurs lui tomber dessus. On va parler de la pollution, de la loi qui a été adoptée en France contre les polluants éternels. Des pesticides aussi qu'on peut retrouver un petit peu partout chez nous avec une nouvelle cartographie commune par commune en France, de l'interdiction des puffs. Et aussi l'augmentation des tarifs de l'électricité, voilà du pain sur la planche, on s'y met tout de suite. Dans les Balkans, donc on peut lire déjà dans les colonnes de Mediapart qu'un mouvement inédit secoue plusieurs de ces pays. La Serbie tout d'abord, en tant qu'épicentre de ce mouvement, mais ce n'est pas le seul pays donc des Balkans qui connaît des manifestations étudiantes, des manifestations très très suivies. La solidarité s'étend en effet en Croatie et en Slovénie, tandis qu'en Bosnie-Herzégovine ou au Monténégro, les étudiants, eux, manifestent aussi pour leurs propres revendications. En tout cas, un seul monde, un seul combat, c'est un des slogans qu'on pouvait lire, rédigé en caractère cyrillique serbe, sur une des banderoles immenses suivies par des milliers de personnes dans les rues de Ljubljana. Les habitants et habitantes de cette capitale slovène exprimaient ainsi ce 8 février leur solidarité avec les étudiants serbes. Mais ils exigeaient aussi pour leur part des excuses de leur maire, qui est lui-même d'origine serbe et qui avait cru bon d'apporter son soutien au président Vučić. D'autres manifestations ont eu lieu à Maribor, la seconde ville de ce petit pays, la Slovénie, dont la sécession en 91 a précipité l'éclatement de la Yougoslavie et qui a rejoint l'Union européenne en 2004. La petite ville serbe. En Croatie aussi, une vague de soutien étonnante a gagné toutes les villes universitaires du pays, à savoir Zagreb, mais aussi Split, Rijeka, Osijek ou Pula. Et comme en Serbie, là aussi, les étudiants croates brandissent des panneaux marqués d'une paume ensanglantée, qui signifie que la corruption tue. Et ils assurent, les voisins sont avec vous, avant d'observer eux aussi 15 minutes de silence en l'honneur des 15 victimes de l'effondrement de la gare de Novi Sad le 1er novembre dernier. À la capitale de la République, à Banja Luka, la capitale de la République Splitska, à savoir l'entité serbe d'une Bosnie-Herzégovine toujours divisée, les étudiants, eux aussi, ont manifesté leur soutien à leurs collègues de Serbie, mais c'est pour l'instant à Sarajevo que le mouvement prend le plus d'ampleur. Le 10 février, plusieurs milliers de personnes, étudiants et citoyens, se sont rassemblés devant le Parlement de Bosnie-Herzégovine à l'appel du groupe informel « À quand le changement ?» Je ne vous épargne la prononciation. Ce mouvement exige la justice pour les 29 victimes des inondations et des glissements de terrain qui sont survenus, eux, le 4 octobre, dans la région de Jablanica. Des pancartes rappelaient que les vies ne sont pas des statistiques et que les catastrophes naturelles sont politiques. Vous voyez donc plein de mouvements qui se ressemblent. Les manifestants dénoncent, en gros, la corruption qui a amené les autorités de leur pays à négliger l'entretien des digues, des rivières ou des systèmes de secours et de prévention à l'origine de ces catastrophes. Cette vague de colère qui est donc partie de Serbie s'étend désormais à tous les Balkans et partout les mobilisations se ressemblent. Par exemple au Monténégro, les étudiants prennent ouvertement modèle sur leurs collègues serbes en bloquant routes et ponts ou en observant de longues minutes de silence en hommage aux victimes. Par exemple pour celle du Monténégro les victimes de la tuerie aveugle du 1er janvier à Cetinje. Un tueur avait abattu 12 personnes avant de retourner son arme contre lui. Et c'était la deuxième fois en quelques années que cette petite ville de 12 000 habitants, l'ancienne capitale royale du pays, connaissait une tragédie de cette sorte. Lors du drame, donc du 1er janvier, seuls 6 policiers étaient en service sur l'ensemble de la commune. Au territoire très étendu, les habitants réclament donc plus de moyens pour la fonction publique. Après le blocage du principal pont de la capitale Podgorica le 1er février, d'autres blocages de routes et de carrefours ont lieu à travers le pays, notamment à Budva et à Cetinje. Le 13 février, des étudiants et citoyens ont bloqué pendant 6 heures le siège du gouvernement. Cette convergence des mobilisations est absolument inédite dans les Balkans. On retrouve partout la même dénonciation de la corruption et la même exigence de démocratie directe des plénums que nous avions expérimenté en 2011 en Croatie, commente d'ailleurs le philosophe Igor Stix, qui est lui-même originaire de Sarajevo, ancien animateur du mouvement étudiant croate. Désormais, il enseigne à Belgrade. Même en Grèce, d'ailleurs, continue l'article, des mouvements similaires semblent essaimer, puisqu'en Grèce, on s'apprête à commémorer les 2 ans de la catastrophe ferroviaire de Tempe, qui avait fait 57 victimes en février 2023, où l'opposition et la société civile ont retrouvé le chemin de la rue pour exiger que toute la vérité soit enfin révélée sur la tragédie. Le 7 février, les étudiants du secondaire s'étaient ralliés aux étudiants qui ont manifesté de nombreuses villes grecques. À Athènes, on en a compté 40 000 personnes, un chiffre qui peut rappeler les grandes mobilisations contre les politiques d'austérité dans les années 2010. Nous vivons dans une société qui n'est pas sûre, une société où les compétences professionnelles passent toujours au second plan, l'essentiel étant d'avoir la carte du parti au pouvoir, expliquait au micro de Radio Free Europe une étudiante à Podgorica, la capitale du Monténégro, présente à ces manifestations. Et donc ce constat ne vaut pas que pour son pays, mais pour tous ceux de la région, qu'ils soient d'ailleurs membres déjà de l'Union européenne ou simplement candidats. Des mobilisations régionales qui réunissent plusieurs pays sont d'ailleurs désormais à l'ordre du jour pour unifier donc cette vague de contestation. À noter qu'il y a aussi un gros mouvement de boycott des supermarchés qui a commencé en Croatie le 24 janvier, je vous en avais parlé. Il s'est rapidement étendu aux autres pays de la région, la Slovénie, le Monténégro, le Kosovo, la Macédoine du Nord et enfin la Serbie. Tous les pays de cette région, en effet, qu'ils soient hors ou dans l'Union européenne, connaissent une inflation particulièrement forte, et ce depuis le début de la guerre en Ukraine, même si elle s'est un petit peu ralentie. Elle est encore, par exemple, à 4,5% en Croatie pour 2024, ce qui est donc bien au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. Et dans le même temps, les salaires, eux, restent sensiblement plus bas, malgré des hausses importantes ces dernières années. Mais ça a souvent renforcé plutôt les écarts entre les capitales de ces pays plus avantagés et les provinces rurales. Un exemple qu'on voit dans cet article, le même produit vaisselle d'une marque allemande, on peut l'acheter 95 centimes d'euros en Allemagne, et bien 2,75 euros en Croatie, dans un supermarché de la même chaîne allemande, DM. Dans tous les pays de la région, en effet, le marché de la grande distribution est en bonne part contrôlé par des enseignes occidentales, alors que l'industrie agroalimentaire, elle, qui est par exemple très développée en Serbie, est aussi largement passée sous contrôle étranger, et un grand nombre de produits sont ainsi importés. Une plaquette de beurre, par exemple, va coûter 3 euros en Allemagne, 5 pour la Bosnie-Herzégovine. Qu'il s'agisse donc de dénoncer ces prix chers, la corruption ou le fait que les responsables politiques se succèdent et restent au pouvoir sans rien faire, qui se rendant possible d'ailleurs toutes les catastrophes naturelles, entre guillemets, ou les tueries de masse, toutes ces revendications, en tout cas, tournent autour des mêmes exigences de justice et d'égalité. Les revendications des étudiants sont géniales. D'ailleurs, explique une réalisatrice serbe Milja Turalgić. Elle explique en fait que les étudiants réclament tout simplement le respect des lois et de la Constitution. Or, c'est précisément, dit-elle, ce que le régime de Vučić ne veut pas faire. C'est aussi en creux la vacuité des discours européens sur l'état de droit et les progrès que feraient les pays candidats européens qui est désormais mise à nu, révélée notamment par l'assourdissant silence de l'Union européenne sur cette vague de révolte qui secoue la Serbie et pourrait bien s'étendre à l'ensemble de la région.
C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches.
On part aux États-Unis où les décrets signés par Trump et les actions de Musk mettent en danger la recherche et l'accès du public aux données notamment de tous les organismes qui font des études sur le terrain. Différentes formes de résistance pourtant émergent face à ces coupes budgétaires, au licenciement massif et à la disparition d'informations. C'est dans les colonnes de Bastamag qu'un long article fait le point là-dessus. Je vous en donne quelques passages. Déjà, rappelez qu'en quelques jours seulement, des vagues de décrets, coupes budgétaires et licenciements ont déferlé sur les États-Unis. Des décisions prises à un rythme effréné qui peuvent avoir un effet paralysant. Une liste de mots, par exemple, circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Égalité, noir et latino, discrimination, genre, femme, communauté indigène. Une liste d'une centaine de termes issus des champs lexicaux de l'inclusivité, de la diversité culturelle ou de la lutte contre les violences systémiques. Eh bien, cette liste provient d'un document interne de la Fondation nationale pour la science. Jusqu'à l'arrivée de Trump, c'était une agence gouvernementale qui justement sélectionnait des projets de recherche selon leur intérêt scientifique en toute indépendance, sans interférence du pouvoir politique, avec un petit budget de 9 milliards de dollars, pour donc favoriser à l'inclusivité et à la diversité, comme on dit aux États-Unis. Ce sont les fameuses politiques DEI, peut-être que vous avez vu passer ça dans des articles. Eh bien, les projets donc, qui contiennent un ou plusieurs de ces mots-clés mal vus du nouveau pouvoir, vous l'aurez compris, doivent désormais être examinés de plus près et éventuellement voir leur financement interrompu. Cela avec l'objectif de se conformer au décret signé par le président des États-Unis mettant fin à tous ces programmes de diversité et d'inclusion, et aussi d'ailleurs le mal nommé décret pour protéger les femmes, c'est le mot, qui interdit toute référence au genre et force donc à catégoriser les personnes selon leur sexe biologique. Un document donc, qui relate toute cette liste a été envoyé le 29 janvier à toutes les agences et à tous les ministères. Différents sites gouvernementaux ont par ailleurs été vidés complètement des contenus qui déplaisent à la nouvelle administration, avec, quand on va sur les pages dédiées, erreur 404 qui s'affiche. Les centres de contrôle et de prévention des maladies, par exemple, ont supprimé les données et les ressources relatives aux personnes transgenres, au VIH et à la justice environnementale. Le ministère de l'Énergie, lui, a supprimé les ressources en ligne qui étaient destinées aux personnes ayant des difficultés, par exemple, à payer leur facture d'énergie. Isabelle Tisse-Saint-Jean, qui est économiste et professeure à l'université Sorbonne-Paris-Nord, qui a été interviewée sur ce sujet par Basta, se montre particulièrement inquiète de ces attaques faites à la recherche donc outre-Atlantique. C'est dramatique, dit-elle, car la donnée est quelque chose de fondamental, et ce, pour l'ensemble de la communauté universitaire mondiale. En effet, par exemple, si aujourd'hui des équipes travaillent sur le climat, elles n'auront plus accès aux données américaines qui sont quand même assez massives. Et la chercheuse rajoute d'ailleurs que le fait qu'en France, l'extrême droite et une partie de la droite française saluent ces initiatives est très inquiétant. Eux, ils savent ce qu'ils font, dit-elle, mais je crains que nos concitoyens ne se rendent pas compte de ce que cela veut dire. Et quand on parle de données et de mots et de textes, on est obligé en plus de souligner le rôle crucial de l'intelligence artificielle dans justement cette nouvelle manière massive de traiter les données et les textes. Il n'y a pas forcément des humains qui vont lire et vérifier le bien fondé de telle ou telle étude. C'est un bref scan qui permet de cibler les mots et hop, ça dégage. Et puis dans un autre sens, une fois que tous ces mots et toutes ces études ne seront plus mises en ligne, justement, les nouvelles intelligences artificielles qui sont en train d'apprendre avec tout, apprendre du vocabulaire avec la masse de données qu'on leur fournit, n'auront pas tous ces mots dans leur champ. Et donc forcément, de fil en aiguille, ça invisibilise complètement tous ces domaines de réflexion et de travail. On ferme la parenthèse sur l'intelligence artificielle. On revient sur éventuellement des initiatives aux États-Unis qui tentent justement de résister à cette énorme vague. Déjà, on peut souligner le rôle d'une agence comme le DGI, qui existe depuis déjà le premier mandat de Trump, et qui a essayé, durant le mandat de Joe Biden, de persuader justement l'administration fédérale de mieux protéger les données et les informations de ces agences pour éviter que la situation ne se reproduise, comme au premier mandat de Trump, où il y avait déjà eu pas mal de disparitions de données. Leurs demandes ont été ignorées. Et maintenant que Trump est revenu au pouvoir, le DGI relance son travail colossal d'observation et d'analyse des sites fédéraux en essayant de compiler tout ce qu'ils peuvent avant que les choses soient complètement justement détruites et puis surtout de pouvoir documenter aussi ce qui se passe en ce moment. D'autres organisations, elles, travaillent pour essayer de sauver les données justement et la mémoire de ces changements. Le IOTO Archive, par exemple, End of Term Web Archive, qui est une coalition non partisane qui va essayer de sauvegarder tous les documents gouvernementaux à la fin de chaque mandat présidentiel pour pouvoir faire une transmission. Il y a aussi le collectif Public Environmental Data Partners, les partenaires des données environnementales publiques, avec des organisations qui se consacrent à la conservation des données donc qui concernent l'environnement. Côté police et justice aussi, ça bouge. Tout le monde n'est pas à fond dans les patins de Donald Trump. Une des promesses de celui-ci était d'amnistier tous les émeutiers du Capitole du 7 janvier 2021. Chose promise, chose faite, plus de 1500 de ses supporters violents ont été libérés ou amnistiés une fois arrivés au pouvoir. Bon, ils se sont fait pour beaucoup rattraper par la police pour d'autres crimes et délits. Mais l'administration Trump, pour ce qui est de la prise d'assaut du Capitole, ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle a aussi décidé de supprimer du site du ministère de la Justice la base de données sur toutes les affaires liées à cet événement. On cherche à effacer complètement l'existence de l'événement. Et en plus, on voudrait peut-être venger une partie des gens et des émeutiers qui ont été arrêtés en suspendant tous les policiers qui ont enquêté sur cette affaire, et notamment au sein du FBI. Et bien là, bizarrement, il y a aussi une résistance qui s'opère, puisque c'est le directeur par intérim du FBI, Brian Driscoll, qu'on surnomme Driz, c'est devenu le symbole improbable d'une résistance discrète à cette campagne. On ne pensait pas que le FBI se mouillerait comme ça. Bah, il a tout simplement refusé de donner les noms de tous les gens qui ont travaillé sur ces enquêtes. Même si vous l'aurez compris, il est directeur par intérim, il va très très vite être remplacé. En interne, d'ailleurs, des agents du FBI ont aussi lancé une procédure en justice pour empêcher ces listes de voir le jour, avec la justice qui a peut-être encore un rôle à jouer de ce côté-là. Malgré tout, beaucoup de fonctionnaires ont été licenciés et d'autres vagues de coupes budgétaires devraient encore ébranler nombre d'agences fédérales. Le fédéral, le tout en plus avec l'équipe de Elon Musk à la barre, qui n'a pas l'air d'être très 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 compétente, mais bon, qui malgré tout fait le boulot à la tronçonneuse, comme ils aiment bien maintenant utiliser cette image qui vient d'Argentine. À noter quand même quelque chose qui a fait un symbole assez fort, qui a fait assez scandale aux États-Unis, c'est le service des forêts, avec ses rangers, vous savez, qui doit se séparer d'environ 3400 personnes. Les parcs nationaux, eux aussi, 1000 employés, vont devoir sauter. Ils sont d'ailleurs, pour protester, hissés des drapeaux américains à l'envers dans leurs parcs nationaux récemment. On parle donc des Rangers, un symbole, s'il en est, du respect de l'uniforme, du patriotisme à l'américaine, avec ses grands espaces. Côté justice, plusieurs des 23 procureurs généraux démocrates du pays ont intensifié leur bataille juridique contre les actions donc du fameux DOGE, le département pour l'efficacité gouvernementale, et les réductions de coûts du Trésor, de l'USAID et d'autres agences fédérales. En effet, depuis son arrivée au pouvoir, avec l'aide d'Elon Musk, Donald Trump a licencié près de 10 000 personnes, cela en plus des 75 000 travailleurs qui ont accepté une offre financière pour quitter leur emploi, selon la Maison Blanche. Plus de 200 000 travailleurs et travailleuses ont, eux, vu leur période d'essai interrompue dès l'arrivée de la nouvelle administration à la Maison-Blanche. Ça, c'est pour le côté juridique, donc des actions intentées du côté du droit du travail et du côté des citoyens. Aussi, on cherche à se faire entendre dans la rue. Le 17 février dernier, je vous en avais parlé, c'était le jour des présidents, avec des milliers de manifestants dans la rue, dans les grandes villes du pays. Et le média indépendant Labour Notes, de son côté, raconte lui donc comment les syndicats justement des agents fédéraux en ce moment gagnent beaucoup d'adhérents et s'organisent. Mais aussi comment à leur base les travailleurs et travailleuses transcendent les appartenances syndicales en partageant notamment des informations précises et des stratégies de riposte. Pour terminer tout cela, la petite blague d'Elon Musk qui répondait à l'injonction de son président d'être plus agressif, le patron de Tesla a exigé des fonctionnaires qu'il publie et envoie par mail 5 tâches effectuées chaque semaine en mettant leur responsable en copie, faute de quoi il risquait le licenciement et les premiers à répondre auraient en plus une promotion. Mais ça n'a pas marché comme voulu puisque les dirigeants des services du Trésor, du FBI, des affaires étrangères ou d'autres ont demandé à leurs fonctionnaires tout simplement de ne jamais répondre à ce questionnaire. En revanche, l'adresse mail de la direction des ressources humaines qui est censée centraliser tout ça, qui a été créée par Musk pour l'enquête, elle, a été rapidement divulguée sur les réseaux sociaux. Et je pense que la boîte mail a dû crouler sous les mails, tous plus bidons ou injurieux les uns que les autres. Si vous avez envie de vous amuser, c'est hr@opm.gov. On reste aux États-Unis avec du lourd peut-être pour l'ONG Greenpeace, qui a déjà survécu à de nombreux procès, mais celui-ci menace de mettre fin à ses activités. Aux États-Unis en tout cas, cette organisation de protection de l'environnement est en effet poursuivie par Energy Transfer dans un procès qui s'est ouvert hier et qui va durer 5 semaines à Mandan, dans le Dakota du Nord. En effet, l'entreprise d'énergie fossile l'organise de diffamation et d'avoir orchestré en 2016 et 2017 des actions qu'elle juge illégales. On était pendant les manifestations, justement, contre la construction du Dakota Access Pipeline, un énorme pipeline dans le Dakota. Greenpeace, donc, risque dans ce procès au moins 300 millions de dollars de dommages et intérêts, ce qui serait pour l'ONG la plus grande menace à laquelle elle doit encore faire face, et elle risquerait donc la faillite. Entre 2016 et 2017, des dizaines de milliers de manifestants s'étaient réunis dans le Dakota du Nord pour s'opposer à un oléoduc, un pipeline donc, qui, sur plus de 1800 km et opérationnel depuis 2017, transporte du pétrole brut du Dakota du Nord jusqu'à l'Illinois. Plus de 300 tribus des Premières Nations étaient venues soutenir les Sioux de Standing Rock. C'est la 6e plus grande réserve indienne des États-Unis où passe donc ce pipeline. Et ils craignent que le projet contamine leurs réserves d'eau, et ils voyaient l'infrastructure énergétique comme une atteinte à leur souveraineté. Durant ces nombreuses manifestations, les forces de sécurité publiques et privées ont arrêté au moins 150 personnes, jeté des bombes lacrymo et lâché des chiens sur les opposants, avec des centaines de manifestants blessés. Energy Transfer, donc l'entreprise responsable de la construction et du fonctionnement du pipeline, avait déjà porté plainte à l'époque contre Greenpeace pour crime organisé, mais un juge fédéral avait estimé que les faits n'étaient pas établis. Et bien, ce qu'ils ont fait, Energy Transfer, c'est qu'en 2019, ils se sont tournés vers un autre tribunal qui dépend, lui, de la législation du Dakota du Nord, un état donc très favorable aux énergies fossiles. Et c'est là que va se jouer ce procès, donc, avec, si la défaite pour Greenpeace était avérée, ça entraînerait la faillite pour sa partie états-unienne. L'ONG précise avoir déjà dépensé plusieurs millions de dollars dans sa défense. Le procès soulève là d'ailleurs la question du droit de manifester, hein, tout simplement. Il est qualifié par Greenpeace de procédure bâillon, avec l'objectif donc de les intimider. Cette stratégie, donc cette pratique du procédé bâillon, est interdite aux États-Unis dans 35 États, mais pas dans le Dakota du Nord, justement. Et d'ailleurs, c'est peut-être en changeant de juridiction que Greenpeace International va essayer de sortir de cette ornière en dénonçant justement cette procédure bâillon, en poursuivant Energy Transfer auprès d'une cour néerlandaise. C'était le 11 février dernier, puisque ces locaux se trouvent en Hollande. Cette action juridique, elle, s'appuie sur une directive européenne de 2024 qui interdit justement ces procédures bâillon.
Ah, les rebolles, tout ça, c'est écœurant à la fin.
Les parlementaires français ont adopté ce 20 février une loi historique, je vous le disais, pour combattre les polluants éternels, les PFAS, une avancée qui est donc saluée comme une victoire majeure. Le texte a bien été adopté, mais des zones d'ombre demeurent sur l'application, en tout cas à partir de ce 1er janvier 2026. La fabrication, l'importation et la vente des produits cosmétiques, des enduits de ski, les FART, et certains textiles composés de PFAS est interdite. Mais au cours des débats parlementaires, les dérogations ont quand même réussi à se glisser entre les lignes. Alors déjà, les interdictions ne concernent pas les ustensiles de cuisine. Eux, ils ont déjà été sauvés de cette histoire il y a un petit moment grâce à un lobbying très puissant mené par l'industriel Sèbre. Une décision d'autant plus dommageable que des alternatives en plus existent pour remplacer les poils au PFAS, avec notamment des modèles en inox, en acier ou en fonte. Le texte exclut également la question des emballages alimentaires et des mousses anti-incendie. Heureusement, pour ce qui est des usages, des emballages alimentaires avec des PFAS, l'usage va en être restreint à partir de demain 2026 par l'Union européenne. Et les mousses anti-incendie, elles devraient être interdites en juillet. Mais une consultation lancée par la Commission européenne pourrait repousser l'échéance au mois de décembre. Donc en tout cas, d'autres interdictions a priori qui vont arriver par d'autres voies juridiques. Pour ce qui est de la loi qui a été votée, les modalités d'application doivent être précisées d'ici l'été, avec un décret qui fixera les détails de l'application. Les parlementaires et la société civile promettent d'être très attentifs à sa rédaction. On n'acceptera pas une demi-victoire, avertit Marie-Charlotte Garin. Le décret doit être conforme à l'esprit de la loi et aux préconisations des scientifiques. Pour Emma Feilleux, qui est juriste pour l'ONG Notre Affaire à tous, les enjeux principaux du texte sont la surveillance des rejets des PFAS et la dépollution. Donc, hormis la santé, le volet aussi environnemental. Charge à l'État, en effet, de mettre en place les moyens de contrôle effectifs et de financer cette dépollution. Un point de vigilance aussi reste nécessaire, puisque le texte prévoit des dérogations pour les vêtements et les chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes. Les propriétés, les grandes propriétés notamment de résistance au feu de ces PFAS, en effet, font qu'ils sont très utilisés dans les vêtements de sécurité, par exemple les pompiers ou les forces de police. Les produits textiles bénéficieront eux aussi d'une exemption dans plusieurs situations, par exemple s'ils sont nécessaires à des utilisations essentielles, quand ils contribuent à l'exercice de la souveraineté nationale et qu'il n'existe pas de solution de substitution, ou bien pour des textiles techniques à usage industriel. Une liste qui devrait être détaillée donc dans le décret d'application et qui pourrait intégrer beaucoup d'autres usages. Il va certainement y avoir des batailles mot par mot. C'est normal en tout cas que cette loi soit partielle. Nous partions de tellement loin que nous n'aurions jamais pu avoir une législation parfaite du premier coup, rappelle Emma Feilleux, qui a soutenu le texte à l'Assemblée. Nous n'aurions pas pu mieux faire, mais il reste beaucoup à accomplir. Ce texte, en tout cas, va ouvrir la voie à de nouveaux chantiers législatifs, notamment sur le principe pollueur-payeur. Pour sanctionner, en effet, les installations industrielles qui émettent ces polluants éternels, la loi prévoit une redevance de 100 euros par 100 grammes de PFAS rejetés dans l'eau, une manne financière qui sera utile pour remédier aux dégâts causés par les polluants éternels. Et la juriste termine avec ces mots: il faut réfléchir à comment opérationnaliser ce principe pour compenser les victimes et contribuer aussi aux travaux de la recherche. On termine ce petit volet d'ailleurs pollution environnementale avec deux cartes qui sont mises en ligne, que vous pourrez retrouver notamment si vous allez consulter le site de Reporter. Quels sont les pesticides les plus utilisés près de chez vous et dans quelle quantité? Eh bien, vu qu'on est tous exposés aux pesticides chimiques, agriculteurs ou riverains, une plateforme interactive maintenant permet de mesurer et de comprendre votre propre exposition à ces produits. Elle a été lancée ce lundi 24 février. Tout cela avec l'ouverture du salon de l'agriculture et dans un contexte de réautorisation de certains pesticides tueurs d'abeilles, des associations environnementales, à savoir Génération Future, Secret Toxique, Noé ou On est Prêt, et aussi la Maison de la Bio ou Ecotone, des acteurs économiques, ont joint leur savoir-faire pour compiler dans toutes les informations existantes sur l'exposition aux pesticides chimiques. La plateforme Tous Exposés, c'est ça que vous pouvez taper pour retrouver ça facilement sur Internet, abrite deux cartes interactives complémentaires, la carte Géophyto et la carte Adonis. La carte Géophyto permet de visualiser quels pesticides chimiques sont les plus achetés dans le département et quelles sont leurs propriétés, donc des perturbateurs endocriniens, des cancérogènes, des polluants des eaux. Et d'ailleurs, on peut voir en suivant cette carte qu'en Europe, la France arrive à la première place de ce triste classement, hein, celui du premier marché européen des pesticides, avec presque 70 000 tonnes vendues en 2022. Et l'autre carte présente, la carte Adonis, elle permet, elle, de visualiser l'utilisation des pesticides chimiques par commune sur le territoire français et ainsi de comprendre les conséquences d'une telle utilisation en agriculture sur nos lieux de vie. Ce sont les régions de grandes cultures céréalières et de vignobles qui sont celles qui utilisent le plus de pesticides. Et si vous voyez la carte, vous verrez qu'on est pas mal rouge dans le coin, enfin pas exactement ici dans le Piémont-Cévenol, mais les territoires un peu plus de la mer entre Béziers et Montpellier notamment, et du côté d'Alès, c'est tout ça principalement lié à la viticulture. En tout cas, vous pouvez zoomer jusqu'à vraiment votre village et votre commune. Les deux cartes sont donc disponibles en ligne et c'est édifiant.
Ah ouais, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi?
On continue avec les interdictions et la pollution. Une bonne nouvelle puisque l'entrée en vigueur de l'interdiction des puffs vient d'être actée dans le journal officiel. Les puffs, ce sont ces petites cigarettes électroniques jetables avec des designs de bonbons qui visaient donc très clairement les jeunes collégiens, voire même écoliers, pardon. C'est donc aujourd'hui que le journal officiel a entériné l'interdiction des cigarettes électriques jetables après deux semaines après le vote par le Sénat de cette même loi. 2 ans de bataille juridique quand même en France, et la puff est donc officiellement interdite. Elles sont très en vogue, ces puffs, chez les jeunes, hein, qui sont friands de leur petit prix et de leurs arômes diversifiés, ça sent le bonbon. Le Sénat et l'Assemblée nationale s'étaient accordés sur un texte d'interdiction, Et ce qui a permis une entrée en vigueur très rapide. Très logiquement, donc on l'espère, les puffs devraient disparaître des lycées, collèges, des rues, et on l'espère aussi des caniveaux. La France devient le deuxième pays européen après la Belgique à interdire la commercialisation des puffs sur ce territoire. Les Royaume-Uni sont dans la même dynamique avec une interdiction à la vente annoncée d'ici le mois de juin. Pour le détail, donc la loi interdit la vente et la distribution de ces dispositifs pré-remplis avec un liquide et ne pouvant être remplis à nouveau, qu'il dispose ou non d'une batterie rechargeable. Car oui, le problème, c'est qu'on ne peut pas interdire les cigarettes électriques, électroniques, qui sont, elles, en partie même encouragées pour arrêter le tabac, mais que donc les industriels jouent sur les flous entre batterie, pas batterie, rechargeable, pas rechargeable. Bref, en tout cas, pour les puffs, c'est fini. C'est une grande victoire dans un double combat que nous menions. Le combat écologique contre les batteries polluantes en lithium de ces puffs et le combat sanitaire pour nos collégiens ciblés par cette consommation qui devient de plus en plus dangereuse. Ce sont les mots de l'auteur du texte, Francesca Pasquini, avant le vote des sénateurs. Parfum menthe, glace à la fraise, pastèque ou chocolat, emballage attrayant, je vous l'ai dit, coût abordable entre 8 et 12 euros pour 500 bouffées, mais avec un risque, lui, très avéré de dépendance. Cet objet a été inventé aux États-Unis par deux Californiens qui voulaient créer une cigarette électronique qui n'aurait pas besoin d'être rechargée. Et le dispositif Puff Bar avait repris un marché laissé vacant suite à l'interdiction des vapoteuses de la marque Juul, qui était l'ancien leader du business des vapoteuses. 15% des adolescents âgés de 13 à 16 ans en France disent avoir déjà consommé de ces puffs, et parmi eux, 47%, donc la moitié, déclarent avoir commencé leur initiation à la nicotine par ce biais. C'est une enquête de BVA pour Alliance contre le tabac de l'année 2023. Les parlementaires qui s'étaient engagés dans cette loi ont d'ailleurs aussi appelé le gouvernement à tenir ses engagements sur l'interdiction prochaine d'un autre produit, les push. Ce sont des sachets de nicotine à usage oral, eux.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Avant le petit café, des mauvaises nouvelles pour les prix de l'électricité. Une étude a été publiée aujourd'hui dans UFC Que Choisir et elle révèle justement les effets de la nouvelle régulation du nucléaire qui va entrer en vigueur au 1er janvier 2026. D'après les calculs donc de l'UFC Que Choisir, Association de défense des consommateurs, les tarifs auraient déjà augmenté de 19% cette année, soit l'équivalent de plus de 250 euros par an pour un foyer moyen. Cette explosion des prix ne doit rien au hasard, souligne le magazine, qui documente la façon dont la réforme du nucléaire transforme le mode de calcul des tarifs qui sont basés sur les prix élevés et instables des marchés internationaux. Là où le prix de l'électricité produite en France pourrait être basé sur le coût réel de production. Pour le coup, c'est vrai que en France, l'électricité, elle est produite de manière assez massive et pas très chère. Dans un communiqué de presse, l'association de consommateurs dénonce donc l'opacité des négociations autour de cette réforme. Une réforme qui est menée entre le gouvernement et EDF sans la moindre concertation avec les représentants des consommateurs. Elle les encourage à introduire des mesures pour contrebalancer cet effet dans une loi. Notamment, parmi les recommandations figure une taxation renforcée des profits d'EDF, un reversement intégral aux consommateurs du produit de cette taxation sous la forme de réduction directe sur les factures. Il souhaiterait aussi la mise en place d'une commission indépendante ainsi que la création d'un service public de l'électricité qui garantirait aux consommateurs un prix basé sur les coûts réels du nucléaire et de l'hydroélectricité. Allez, on termine en musique. Un petit hommage à la chanteuse américaine Roberta Flack qui vient de mourir hier à l'âge de 88 ans. Elle a été connue notamment pour son interprétation de la chanson « Killing Me Softly With This Song » reprise ensuite par les Fugees. Elle était née en Caroline du Nord, une pianiste virtuose, un peu à la Nina Simone. Cette chanteuse afro-américaine a une grande influence sur la soul, qu'elle a réussi à mêler avec le jazz et la folk. Mais elle a aussi une trajectoire notable, car elle a suivi sa propre trajectoire, animée par un goût de l'indépendance, qui évoquait, je vous le disais, pas mal celui de Nina Simone ou James Brown pour le côté entrepreneur, puisqu'elle en effet très vite pris les rênes de la production de ses propres albums en signant sous un pseudo le côté ingénieur du son. Et ça n'existait tout simplement pas à l'époque dans le business de la musique, hein, à la fois pour une femme et pour une femme noire. Elle a été aussi partenaire de musique de Donny Hathaway jusqu'à sa mort, qui a composé beaucoup de morceaux pour elle et qu'ils ont chanté en duo. Elle a commencé ses succès en 73 avec l'album First Takes, qui a été pris en une fois, une seule dizaine d'heures pour 9 titres qui sont restés mythiques. Et avec dedans justement son premier hit, The First Time Ever I Saw Your Face, qui a remporté le Grammy Award en 73. Voilà Roberta Flack, sa voix et puis son piano. On va l'écouter ici dans justement un morceau qui est dans cet album First Takes de 69. Le morceau, c'est une reprise d'un titre de jazz qui s'appelle Compared to What. You have one doubt, they call it treason. I said we're chicken feathers, all without one gut. Try to make it real, but compared to what? Go to church on Sunday, sleep and not trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with pride, telling what he thinks is right. But he must be some kind of stupid nut. He tries.
Des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.